Bienvenue, vous êtes sur le 7e épisode de l'émission Tu la sens la liberté. Pour ce numéro spécial, nous le ferons en deux parties. Quand j'étais écolier et collégien, j'ai étudié dans une école et collège privé catholique sous contrat. Malheureusement, j'ai été viré pour des raisons de soumission à l'autorité. La recherche de la liberté commençait à ce moment-là. Je me suis longtemps intéressé à la philosophie libertaire et marxiste pour organiser ma structure de pensée. Plus tard, je suis tombé dans les addictions avec des overdoses. Dans une investigation profonde, j'ai commencé à saisir la matérialisation d'une puissance supérieure. Il est évident que la puissance supérieure ou Dieu n'ont a priori rien à voir dans le cadre d'un enracinement très profond de la doctrine matérialiste. Pourtant, cette voie spirituelle m'a permis de trouver une autre démarche profonde. Je me sens comme saint Thomas. Quand Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru » Jean 20, 29. Le scepticisme en général fait partie intégrante de ma propre vie. Douter, raisonner, argumenter sur les faits apparaît comme une certaine rigueur, une honnêteté que je dois avoir vis-à-vis de moi-même. La matérialisation de la foi se construit, in fine, comme quelque chose de forcément mystique. Dans les sciences dures, comme sociales, les croyances vont à l'encontre de la science. Pourtant, croire et faire de la science ne sont pas incompatibles lorsque nous séparons les deux. Il paraît qu'il y a beaucoup d'athées parmi ceux qui sont adeptes de la défense du droit des animaux. Nonobstant ce fait, nous n'avons pas vraiment d'études à ce sujet, tout comme différents sondages. En l'absence de preuves, nous ne pouvons rien hypothéquer comme théorie. Pourtant, je me suis dit, s'il y a des athées parmi ce grand mouvement, il y a forcément des croyants. Le pasteur qui me suit et qui me fait l'étude biblique disait que j'étais un miracle de Dieu, profondément athée et enraciné dans une logique matérialiste à l'extrême. Je ne voyais uniquement ce que je pouvais démontrer. Pourtant, la foi et la raison semblent deux choses totalement contradictoires. L'honnêteté incombe à dire que j'ai renié le catholicisme pour des raisons éthiques, spirituelles et de dogme. Le vieux monde ne pourra pas se soustraire d'une théologie tombant profondément dans les abîmes. Évidemment, il faut rappeler qu'au XXIe siècle, chacun est libre de croire comme de ne pas croire, mais aussi de critiquer les différents courants religieux. Au cours d'un séjour dans une clinique psychiatrique, j'ai changé. Je peux le dire haut et fort, ce changement de paradigme m'a permis de changer du statut de carniste assez radical à celui d'être végétarien. Même si, pour moi, cela n'est pas assez. J'ai l'ambition de passer à un autre cap dans les prochains mois, voire les prochaines années. Toutefois, Rome ne s'est pas construite en un jour. Se séparer d'un schéma ancré pendant des dizaines d'années n'est pas simple à faire. Cela prend manifestement du temps, puisque cela touche au plus profond de nous-mêmes, à savoir notre pensée tout comme notre conscience. Durant un séminaire au sein de la communauté religieuse que j'ai fait à la Bourboule, j'ai fait des recherches pour lier deux faits qui a priori n'ont rien à voir l'un et l'autre. Le christianisme et la lutte pour le droit des animaux. De facto, j'ai fait des recherches pour tomber sur des groupes qui essayent de mêler ces deux courants philosophiques. Dans le même temps, j'ai décidé d'emboîter le pas vers une émission qui aura lieu certainement en octobre, qui se nommera « Animaux et judaïsme ». Dans le premier chapitre de la Genèse, il y est décrit que les premiers hommes mangeaient exclusivement des plantes. Plus tard, lorsque Moïse prit les tables de la loi, Dieu leur donna l'un des commandements « Tu ne tueras point ». Pourtant, les êtres humains juifs ou chrétiens continuent de faire des massacres sur l'ensemble du globe chaque jour pour se nourrir ou nourrir les autres animaux. Dans le même temps, saint Matthieu, dans son évangile, nous ordonne la marginalité et la non-conventionnalité. N'est-ce pas dans ce sens que la lutte du droit des animaux doit être regardée au sens de la Bible comme étant une lutte marginale et non conventionnelle? Je suis tombé sur un des groupes sur le réseau social le plus fréquenté de la planète. En faisant du bouche à oreille, je suis tombé sur deux personnes croyantes mêlant aussi la lutte pour le droit des animaux. Au début, je n'avais qu'une seule personne, puis j'en ai eu deux. La question s'est posée, comment articuler un podcast, a fortiori, très intéressant sur des personnes qui maîtrisent mieux que moi la question de la religion. J'ai décidé de faire une émission en deux parties. La véracité de faire une émission politico-religieuse s'inscrit dans une approche de la question du droit des animaux. Je suis tombé sur Rémi, dont l'histoire personnelle m'a profondément touché. Ancien témoin de Jéhovah, il a décidé de quitter cette secte pour toucher le protestantisme. Cet épisode sera divisé en trois parties. D'abord, nous aurons un témoignage du passage de témoin de Jéhovah au protestantisme. Dans une seconde partie, nous aurons un changement de paradigme. Et dans une dernière partie, nous aurons le lien entre le christianisme et l'animalisme.
Pour la première partie, on avait dit que tu expliquais ton témoignage de ton parcours des témoins de Jéhovah. Ouais. Jusqu'au protestantisme, si j'ai bien compris, c'est le courant réformé du christianisme.
Ouais, à peu près.
et en fait, je voulais comprendre, c'est quoi finalement ton parcours chez les témoins de Jéhovah ?
Donc là, on est parti, tu enregistres du coup ?
Ouais, j'enregistre du coup.
D'accord. Bon, bah allez, c'est parti. En fait, mes parents ont rencontré les témoins de Jéhovah quand j'avais 3-4 ans à peu près. Donc, ils ont commencé ce qu'ils appellent une étude biblique, c'est-à-dire qu'ils venaient chaque semaine avec eux pour étudier un manuel des témoins de Jéhovah. Ça a duré à peu près 5 ans, puis ils ont arrêté pour des raisons diverses et variées. Et moi, quand j'étais ado, ben, j'y suis retourné, parce que c'est à peu près la seule chose que je connaissais vraiment en termes de religion, et j'avais un gros besoin spirituel, quoi, de me rapprocher de Dieu. Et du coup, j'ai pris une étude chez les témoins de Jéhovah et je me suis fait baptiser en 2001. J'avais 19 ans. J'y suis resté jusqu'en 2013. Alors 2013, de façon officielle, de façon officieuse, j'avais arrêté les réunions depuis quelques temps déjà, en fait, parce que j'avais traversé une période de doute qui était assez intense après la naissance de ma fille, en particulier en 2010. Et donc voilà, donc tout mon petit monde, c'était les témoins de Jéhovah. Ma famille est témoin de Jéhovah, ma femme est encore officiellement témoin de Jéhovah. J'ai quand même été élevé en tant que témoin de Jéhovah, même si on n'était pas témoin de Jéhovah officiellement, c'est-à-dire qu'on ne faisait pas partie de l'organisation, mais ma mère a continué de nous élever comme des témoins de Jéhovah quand j'étais petit. Voilà, donc quand on est arrivé en 2013, ben moi j'étais assez convaincu que c'était plus la vérité, qu'ils étaient complètement à côté de la plaque en termes de doctrine, mais aussi en termes de pratique. Il y a plein de choses qui m'ont dérangé, comme des doctrines, par exemple, sur les deux classes. Hein, qui pensent qu'il y a deux classes de chrétiens. Il y a une classe qui a un espoir céleste d'aller au ciel, qui sont seulement 144 000, et le reste ont un espoir qui est terrestre, c'est-à-dire qu'ils croient que le reste de l'humanité vivra sur la terre restaurée en paradis. Ça me dérangeait énormément, la question du baptême de l'esprit, voilà, il y a plusieurs pratiques comme le refus des transfusions de sang. Donc ça, la question s'est posée par exemple quand ma femme était enceinte de ma fille. Ça m'a vraiment énormément travaillé, cette question du sang à cette époque-là. Voilà, différentes pratiques comme ça. Puis en même temps, pendant ces années chez les témoins, j'ai pu voir l'envers du décor, c'est-à-dire que vous savez, ils sont tous sourire, hein, les témoins de Jéhovah, ils sont sympathiques, etc. Quand on rentre dans une salle du royaume, on a l'impression de rentrer dans un gros bonbon rose, quoi. On a l'impression de trouver une nouvelle famille, etc. Mais la réalité derrière, elle n'est pas comme ça. Une fois qu'on est témoin, on rentre un peu dans les meubles et on voit parfois un peu l'envers du décor et ce qui se passe du côté des anciens, et c'est pas forcément reluisant, quoi. Donc tout ça, ça a fait que en 2013, je suis sorti tant bien que mal. Puisqu'il faut quand même savoir que quand on quitte les témoins de Jéhovah, ça veut dire qu'on perd sa famille et ses amis, bien souvent. Donc famille témoin de Jéhovah, parce que les témoins de Jéhovah n'ont plus le droit de parler aux anciens membres. Donc ceux qui sont exclus, ils deviennent ostracisés, en fait. Moi, j'ai pas été exclu, c'est-à-dire j'ai pas été excommunié par l'organisation. Je me suis retiré volontairement. Donc j'ai envoyé une lettre de retrait pour dire que je voulais plus faire partie des témoins de Jéhovah. Et donc ça m'a valu la perte de gens que je considérais comme des amis. Et les relations avec ma famille depuis ce temps-là sont assez compliquées, quoi. Voilà, donc c'est là où, voilà, c'est simplement une petite histoire en tant que témoin de Jéhovah. Donc après ma sortie des témoins de Jéhovah, j'ai fait mon travail, quoi. Parce que la première chose que j'ai fait, c'est de relire la Bible. Donc ça, c'était même avant de sortir des témoins de Jéhovah. J'ai pris ma Bible, je la lisais, et j'ai eu une vraie soif de lire la Bible, chose que j'avais pas forcément quand j'étais vraiment à fond à la caisse témoins de Jéhovah. Donc j'ai relu ma Bible à zéro, je crois que je l'ai relu 2 fois, assez rapidement. Et j'aimais ce que je lisais, quoi. Et en 2012, il s'est passé quelque chose qui était un tournant dans mon parcours, puisque je suis né de nouveau. C'est-à-dire que, comment décrire cette expérience? Je suis pas certain de savoir comment décrire cette expérience. C'était un soir, en fait, d'une réunion que les témoins de Jéhovah appellent un mémorial. C'était la première fois que j'allais pas à leur mémorial. En fait, chaque année, ils se réunissent pour commémorer la mort de Christ. Et cette année-là, j'ai décidé de pas y aller et de le faire chez moi. Donc, je me suis acheté mon Parmazzo, du vin, sachant que je buvais pas d'alcool à cette époque-là. J'ai juste acheté du vin pour cet événement-là. J'ai pris ce pain, j'ai pris ce vin, j'ai énormément prié. Et ce soir-là, j'ai ressenti la présence de Dieu comme jamais dans ma vie, quoi. Donc, voilà. C'est ce soir-là que je suis devenu un chrétien né de nouveau. Et par la suite, ça s'est confirmé. Quand je lis la Bible, c'est une lettre de mon père, quoi. C'est plus et de règles comme je le pouvais le concevoir avant en tant que témoin de Jéhovah, quoi. Donc ça, c'est ma petite histoire de comment je suis sorti des témoins de Jéhovah, comment je suis né de nouveau. Et puis par la suite, j'ai recherché, j'ai beaucoup cherché. Je suis passé par l'anarchisme chrétien. J'ai été beaucoup impressionné par un bouquin que j'ai lu de Léon Tolstoï qui s'appelle Le royaume de Dieu est en vous. Ça m'a vraiment marqué après ma sortie des témoins. Et puis j'ai continué comme ça mon cheminement, j'ai réfléchi, je suis passé par des périodes un peu de christianisme universaliste. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Alors en fait, le christianisme universaliste, c'est une version du christianisme dans laquelle tout le monde serait sauvé, quoi. Voilà. Normalement, dans le christianisme orthodoxe, c'est pas tout le monde qui est sauvé, c'est ceux qui placent leur foi en Jésus. Tandis que là, c'était le christianisme universaliste. Je suis passé par l'unitarisme aussi, parce qu'en tant que témoin de Jéhovah, je rejetais la Trinité. Et quand je suis sorti, c'est resté encore avec moi un petit moment. Voilà. Donc j'ai cherché, j'ai fouillé, et puis j'ai relu ma Bible. Et puis avec le temps, j'en suis arrivé à des conclusions au niveau des doctrines, sans forcément vouloir me rapprocher d'un mouvement, parce qu'au contraire, moi, je rejetais complètement toute forme de religion pendant très longtemps. J'ai fait ça d'ailleurs. Et puis, au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais assez proche du calvinisme et du protestantisme réformé. Donc, j'aimais pas les étiquettes, mais ça s'est un peu imposé à moi, quoi. Donc là, à l'heure actuelle, je fais pas partie d'une église officiellement. Je fréquente une église évangélique parce qu'ils ont un culte pas très loin de chez moi, mais autrement, je fais pas vraiment officiellement partie de l'église ça me débecte un peu, en fait, l'idée de faire partie d'un système, d'une institution, d'une église quelconque, officiellement. Et c'est vrai que, sinon, c'est ça. Au niveau des doctrines, je me reconnais dans le protestantisme réformé, plutôt orthodoxe.
Et donc, nous allons nous écouter le groupe Tourniquet sur la musique Ark of Suffering. C'est du métal chrétien engagé pour les droits des animaux.
Hey!
Et du coup, qu'est-ce qui t'a poussé à changer de philosophie de vie, notamment sur la question du végétarisme et du droit des animaux?
Alors, en fait, tout est venu en même temps. C'est à l'époque où j'étais en période de réflexion sur les témoins de Jéhovah. Et à un moment donné, alors ça doit être, c'est entre 2010 et 2013, je ne sais pas à quel moment exactement ça s'est passé, mais en tout cas, sur cette période-là, j'ai eu un vrai bouleversement dans ma façon de voir le monde, dans ma façon de comprendre le monde, parce qu'à cette époque-là, pour moi, c'était tout blanc et noir. Voilà, le monde m'était dicté par les témoins de Jéhovah, par leur doctrine, par leur façon de faire les choses, quoi. Donc, l'organisation des témoins de Jéhovah me disait ce que je devais comprendre du monde. Et donc, tout a été revu. J'ai tout repris à zéro. Et le végétarisme, ça a fait partie de ça. Ça a été aussi une reconstruction qui a fait partie de ce changement de vie, en fait, à cette époque-là. Alors, comment ça a commencé? Eh bien, en fait, ça a commencé avec une étude que je faisais avec ma sœur et mon beau-frère et ma femme. Donc, on se réunissait une fois par semaine à un moment donné pour faire des études bibliques ensemble. Donc, à l'époque où j'étais encore témoin de Jéhovah. Et j'avais fait des recherches dans le cadre de ça sur Samson et sur le vœu de Naziréa. Alors, le vœu de Naziréa, c'est une promesse qu'on fait envers Dieu. En fait, Naziréa, ça veut dire séparer. Donc c'était un vœu que faisaient les Juifs à l'époque. Ils pouvaient faire un vœu comme ça pour c'était un moyen de se purifier et de s'humilier devant Dieu en fait. Et il y avait un certain nombre de choses à respecter, comme par exemple le fait de se laisser pousser les cheveux, le fait de ne pas toucher de vin, le fait de ne pas toucher de cadavre. Et il y a eu tout un cheminement après, parce que c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. Alors je sais pas pourquoi, mais ça m'a vraiment marqué. Et la première chose que j'ai faite, c'est d'arrêter de boire de l'alcool. J'en buvais pas énormément déjà d'avance parce que j'avais comment dire, l'historique dans ma famille, c'était pas exactement glorieux, quoi. C'était lié à une histoire de violence conjugale, dans ma famille. Donc, l'alcool, je me tenais éloigné en général. Mais là, j'ai pris vraiment une décision, c'est d'arrêter de boire de l'alcool tout court. Et puis voilà, plusieurs choses comme ça qui se sont ajoutées. Ben, mes cheveux, c'est aussi l'origine du fait que j'ai les cheveux longs, par exemple. Alors, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est parce que j'écoute du heavy metal, mais en fait, c'est pas lié à ça, c'est par rapport au vœu de Naziréa. Hein. C'est ça qui m'a, ça m'a marqué. Donc, j'ai pas fait le vœu, hein, d'ailleurs, j'ai pas fait le vœu, mais ça m'a marqué, quoi. Et la viande, ben, c'est venu avec le temps, parce que ça m'a aidé à faire la connexion entre le cadavre et la viande. Pour moi, la viande, c'était plus simplement un aliment. C'était un cadavre. Et ça s'est fait avec le temps. Et en fait, quand ma femme faisait de la viande, à un moment donné, ça a commencé à me dégoûter. J'ai commencé à sentir l'odeur de cadavre. Ça sentait plus la viande, ça sentait plus l'aliment, ça sentait le cadavre. Et j'ai refait vraiment cette connexion-là. Donc ça marchait avec le bœuf, ça marchait avec tout le reste, avec le poulet. On mangeait énormément de poulet à l'époque. Et je pouvais plus. À un moment donné, c'était fini. Je pouvais plus. Ça sentait le cadavre. La viande, c'était du cadavre. J'ai continué de manger un peu de poisson pendant un petit moment. Et puis un jour, ma femme m'a demandé de couper un poisson. Elle avait acheté un saumon entier. Elle m'a demandé de le couper et il était là devant moi et j'ai vu ses yeux et j'ai dit non, c'est fini, quoi. Pour moi, c'est terminé. C'est un animal, c'est un être. Là, ce que j'ai devant moi, c'est un cadavre, quoi. C'est le cadavre d'un animal qui était vivant et voilà. C'était terminé, quoi. C'est comme ça que ça a commencé mon chemin vers le, enfin, du végétarisme. C'est comme ça que je suis devenu végétarien. Et après, l'éthique, elle est venue après, quoi. Voilà. Le raisonnement, il est venu après. Avant, c'était pas tellement un raisonnement, ça s'est fait vraiment de façon naturelle, avec cette histoire de Naziréa, avec cette reconnexion avec l'idée que ben, c'était des cadavres, quoi. Et après, l'éthique, elle est venue après. Les questions d'éthique, les questions du bien-être animal, de la souffrance, c'est venu par la suite. Et donc, bah, par la suite, comme j'étais dégoûté de la viande, j'ai commencé à rechercher ce que c'était que le végétarisme, etc., ce que c'était que le véganisme. Et donc, j'ai creusé, j'ai lu pas mal de choses de blogs, de sites internet. À cette époque-là, je l'ai pas précisé, mais j'habitais en Écosse, donc c'était facile, quoi. C'était vraiment facile. J'avais accès à beaucoup d'informations, j'avais accès à beaucoup de produits dans les magasins. Et puis ça s'est fait assez naturellement, j'ai vraiment pas forcé, j'ai pas cherché à me convaincre, ça s'est fait vraiment très naturellement pour moi. Et donc naturellement aussi, j'étais tellement convaincu de ce que je faisais, au bout d'un moment, qu'il m'a fallu passer à l'action. Et puis, c'est pour ça que j'ai créé, entre autres, cette page chrétien, végétarien, végétalien et vegan sur Facebook. J'avais cherché un groupe de ce genre, en fait. Je cherchais des gens avec qui je pouvais me connecter, qui étaient des chrétiens, végétariens, parce que pour moi, il y avait un lien direct avec ma spiritualité. Donc, je pensais bien que ça existait. En fait, à l'époque, ça n'existait pas tellement sur Internet, sur Facebook. Donc, je me suis dit, bon, bah, allons-y, créons-la. Donc, j'ai créé cette page. J'avais créé aussi un groupe en parallèle que j'ai fini par fermer parce qu'il n'était pas très actif, donc je me suis dit, bon, ça sert à rien. Mais la page, j'ai quand même quelques centaines de likes dessus avec des gens qui suivent régulièrement les publications. Et puis j'ai trouvé des gens qui ont le même genre de connexion que moi avec la spiritualité, avec Dieu, avec la Bible et le végétarisme et le respect des animaux.
Et donc, nous allons nous écouter le groupe After Bridge avec la chanson Brand New Start.
Cast your sorrows to the wind.
Et du coup, est-ce que tu te bases sur des écritures pour mettre en avant ton végétarisme?
Alors, ça, c'est une question qui est un peu compliquée. Alors, pourquoi c'est compliqué? C'est parce qu'il y a vraiment des débats au sein des chrétiens là-dessus. Traditionnellement, les chrétiens, en général, rejettent le végétarisme et la cause animale pour des raisons assez obscures, parce que souvent, ils vont se baser sur des textes de la Bible qui prouvent absolument pas qu'on ait le besoin ou l'obligation de manger de la viande. Faut savoir que la Bible n'interdit pas de manger de la viande, mais elle ne dit pas non plus qu'on doit manger de la viande à tout prix. Par contre, il y a des textes qui sont utilisés assez souvent par les chrétiens pour prouver qu'on devrait manger de la viande. Alors, ça va être par exemple en 1 Corinthiens chapitre 8 à 10. On a aussi Romains 14. Donc, en fait, en général, c'est sur le fait que un chrétien a le droit de manger d'un peu de tout. Sauf que ce qu'oublient souvent ces personnes, c'est que la question, c'est pas tellement l'aliment, la question, c'est la spiritualité qui est derrière. Parce que, en fait, ce dont Paul parle, par exemple, en 1 Corinthiens chapitre 8, c'est pas simplement de la viande, c'est de la viande qui était sacrifiée aux idoles et aux faux dieux. Donc, l'argument de Paul, il a absolument, en fait, rien à voir avec la viande en tant que telle. Il a à voir avec le fait que c'était sacrifié aux idoles. Et est-ce qu'un chrétien peut manger de la viande qui a été sacrifiée à un faux dieu, quoi? Et malheureusement, c'est des textes qui sont souvent utilisés par les chrétiens pour justifier la consommation de viande et puis aussi ce qu'on fait subir aux animaux. Des textes qui sont aussi utilisés, ça va être en Genèse, avec le fait qu'on doit dominer la création. Sauf qu'en fait, c'est des textes qui sont souvent pris complètement hors de leur contexte, sont pris pour justifier un peu tout et n'importe quoi, comme ça peut être fait aussi avec l'esclavage. C'est la même chose en fait, hein. C'est le même genre de textes qui ont été utilisés pour faire croire que voilà, les Noirs n'avaient pas d'âme, qu'on pouvait parfaitement les mettre en comment dire, les dominer, les oppresser, il n'y avait pas de souci, parce que de toute façon ils n'avaient pas d'âme. Bon, on a le même discours aujourd'hui, on peut retrouver ça aussi, même au sein de l'Église catholique. À un moment donné, il y avait eu toute une histoire avec le pape qui aurait dit que les chiens pouvaient aller au paradis ou je ne sais trop quoi. Ils étaient vite revenus sur ce qu'ils avaient dit, justement en citant ce genre de texte, en disant que les animaux n'avaient pas d'âme. Alors que quand on reprend la Genèse, en particulier les premiers chapitres de la Genèse, les animaux sont des âmes au même titre que les humains. Ils reçoivent l'esprit de Dieu au même titre que les humains. Et s'il y a une différence, c'est que selon la Genèse, bon après on lit ça littéralement ou pas, hein, le récit de la Genèse, selon la Genèse, les humains, donc l'homme et la femme, auraient été créés à l'image de Dieu. En tout cas, globalement, c'est vrai qu'il y a dans la Bible d'excellentes raisons de devenir végétarien. Ça commence à la Genèse avec le régime qui avait été donné aux premiers humains. Donc encore une fois, hein, ça a lieu, ça, il y a différentes façons d'appréhender le texte de la Genèse parmi les chrétiens. Vous avez ceux qui prennent le texte littéralement et pas, comme moi, je prends pas ce texte littéralement. N'empêche qu'il y a ce texte, par exemple, qui dit en Genèse, c'est le premier chapitre, hein, donc au début, qui dit ceci. Donc c'est Dieu qui parle aux humains en leur disant: « Je vous donne toute herbe à graines sur toute la surface de la terre, ainsi que tout arbre portant des fruits avec pépins ou noyaux, ce sera votre nourriture. » C'est-à-dire que les humains ont été créés véganes. Ils étaient véganes à la base. C'est-à-dire qu'ils ne consommaient absolument aucun produit animal. Les hommes, les animaux vivaient en parfaite harmonie avec la nature dans ce jardin d'Éden qui a été créé. Et la consommation de viande, c'est venu après avec la déchéance de l'homme, en fait. Ça faisait partie de la déchéance de l'humain. C'est absolument pas comme ça qu'on avait été créé à la base. Et puis donc cette trame, on va la retrouver à travers toute la Bible, et on va lire des textes, par exemple en Ésaïe, qui sont vraiment puissants sur cette harmonie entre l'homme et les animaux. Par exemple, on a Ésaïe chapitre 11. Il y a un très beau texte en Ésaïe chapitre 11. Alors, je vais le lire si ça te va. Par exemple, on peut lire à partir du verset 6: le loup habitera avec l'agneau. Et la panthère se couchera avec le chevreau, le veau, le jeune lion et le bétail qu'on engraisse vivront ensemble, et un jeune garçon les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, et leurs petits un même enclos, et le lion mangera de la paille comme le bœuf. Bref, en tout cas, c'est tout un texte qui montre à quel point le dessein de Dieu, c'est absolument pas qu'on détruise la création comme on fait aujourd'hui, et en particulier les animaux, qui sont des êtres sensibles et sentients. C'est absolument pas ça, c'est l'harmonie au contraire entre les humains et les animaux, quoi, ce qu'ils recherchent. Et si on veut parler de domination, c'est une domination qui est faite avec amour. Et ça, on arrive dans le Nouveau Testament avec l'évangile, avec la façon dont Jésus traite son Église, avec cet amour qui va jusqu'au sacrifice. Et c'est ce genre d'amour-là, ce genre de domination que Dieu veut comme relation entre les humains et le reste de la création. C'est pas une domination qui détruit. Et voilà, donc là, on va jusqu'à la fin des Écritures avec le livre de l'Apocalypse, avec des textes qui sont assez clairs, avec un texte, par exemple, qui dit que Dieu détruira tous ceux qui ruinent la terre, quoi. Voilà, donc on trouve ça, c'est une trame tout au travers de la Bible. Alors, c'est clair que, par contre, il n'y a aucun texte qui dit « vous ne mangerez pas de viande ». Et c'est de la même façon, je ne suis pas non plus d'accord avec ceux qui voudraient interpréter le texte qui dit « tu ne tueras point » comme un texte qui dit qu'on ne doit pas tuer les animaux. Puisque si on lit l'Ancien Testament, on va vite se rendre compte que tu ne tueras point, ça veut en fait dire tu ne commettras pas de meurtre, puisque dans la Bible, il y a quand même une violence qui est justifiée, une violence qui est sainte, en fait, quelque part. En tout cas, bref. Voilà, c'est ça. Donc, moi, personnellement, je considère que de Genèse jusqu'à Apocalypse, la trame, c'est le dessein divin qui est l'harmonie entre les humains et le reste de la création, une domination qui est faite d'amour, une domination qui est faite de sacrifices. Donc, c'est nous qui nous sacrifions pour les animaux. Il faut arrêter de voir les choses dans le sens inverse. C'est l'inverse. Nous devons nous sacrifier les uns pour les autres, mais aussi, vous êtes prêts, pardon, à nous sacrifier les uns pour les autres, mais aussi, pourquoi pas, pour le reste de la création. D'après moi, c'est pas une hérésie que de dire que nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes et que ce prochain inclut aussi les animaux.
Ok, j'ai l'impression qu'on a fait le tour. Pour terminer cet épisode, on va s'écouter un son de Korpi Kleani avec une prononciation imprononçable. Donc je vous laisse écouter et je vous dis à la prochaine.